Vous avez vous-même reçu une petite fiche, n'hésitez pas à les faire passer à tous avec les textes principaux qu'on va essayer de commenter durant cette conférence. Avant, pas d'introduction, toujours pas, je fais des progrès, pas des grandes introductions qui n'en finissent pas, mais un petit peu de vocabulaire pour essayer de comprendre les mots que je vais utiliser à partir de maintenant, puisque nous arrivons dans une partie assez technique, extrêmement ancienne. On va le voir, hein, la plupart des prières qu'on va commenter datent du 4e siècle, voire d'avant, avec du coup des mots techniques qu'il nous faut utiliser et dont je vais vous parler. Le mot, c'est un petit dictionnaire, le mot Eucharistie, j'en ai déjà parlé il me semble, ça veut dire tout simplement action de grâce. Une Eucharistie, Eucharistein en grec, c'est action de grâce, c'est le thème central de toute cette partie, de toute la messe en général, et plus particulièrement de la partie qu'on va regarder maintenant, préface plus canon, l'Eucharistie. Le mot anaphore, qui est utilisé aussi assez souvent pour décrire ce dont on va parler aujourd'hui, signifie sacrifice, offrande. Donc quand on va dire une anaphore, c'est un synonyme du canon, par exemple. Le canon est cette partie de la messe qui commence avec la préface, on va dire juste après la préface, jusqu'à avant le pater, le canon de la messe, ou l'anaphore, ou la prière eucharistique, dans le nouveau vocabulaire. Ce sont des mots qui sont similaires, qui décrivent à peu près la même chose, c'est-à-dire cette partie centrale de la messe où se déroule le sacrifice eucharistique du Christ. Anaphore. Donc je vous ai dit, similaire à canon, le canon de la messe, c'est l'expression ancienne pour décrire le canon romain, celui qu'on va commenter. Et canon vient du grec qui veut dire règle. C'est la règle de l'action sacrificielle. La règle, c'est-à-dire l'ordonnancement des différentes formules, des différentes prières que le prêtre doit dire et qui normalement ne change pas. L'idée d'un canon, c'est une idée de permanence, de règles définies que le prêtre dit pour accomplir le saint sacrifice. C'est aussi l'idée d'une liste établie, un canon. Le droit canon, c'est plutôt l'idée de la règle de l'Église. En cherchant un peu, le mot canon qui tire des boulets de canon vient de cette même origine. Il décrit l'acte droit et ferme, décidé, décisif, qui ne bouge plus du chef de guerre qui attaque. Ça vient de là. Donc l'idée du canon, c'est la règle de l'action. Ça va donner ici canonisé, un saint canonisé. On va voir pourquoi. Ça vient du canon de la messe. Bon, canon. Ensuite, les parties importantes du canon de la messe ou de l'anaphore sont la partie centrale, c'est-à-dire qu'on appelle la consécration. La consécration, ça désigne uniquement les paroles prononcées par le Christ, les paroles consécratoires, la double consécration, on va dire, une parole pour le pain, une parole pour le vin. Quand on parle de consécration, c'est de ça dont on parle. La consécration est donc c'est le centre, c'est ce qui est en gras souvent dans les missels ou en majuscule, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le calice de mon sang, voilà. Ce sont les paroles à consécration, on les travaillera. Elles sont inscrites dans ce qu'on appelle le récit de l'institution, qui commence du coup en fait à la prière d'avant, le qui prier quam pateritur, celui-ci la veille de sa passion, prie du... Ça c'est le récit de l'institution, voilà. Et tout cela est inscrit dans un cercle un peu plus grand, encore plus grand, qu'on appelle le canon de la messe ou l'anaphore. Vous voyez ? Ok ? Donc nous, on va commencer à réfléchir sur le canon de la messe. Et aujourd'hui, on va s'arrêter juste avant, si on a le temps, s'arrêter juste avant le récit d'institution qu'on verra la semaine prochaine. Dans le canon, dans l'anaphore, dans les plus anciennes anaphores orientales, occidentales, il y a, en plus de la consécration, deux prières qui ont un sens tout à fait particulier et qui ont un nom tout à fait particulier aussi, que sont l'anamnèse. L'anamnèse, qui du grec signifie la mémoire, est une prière centrale du canon, qu'il y a dans tous les, même dans les canons ou dans les anaphores orientales, dans laquelle on fait mémoire de la passion du Christ, pour faire ce lien entre l'offrande du sacrifice de la messe et le Golgotha, la passion du Christ. Dans le canon romain, c'est la prière Undet Memores, qu'il y a juste après la consécration. Donc on la verra la prochaine fois. Mais retenez ce mot, d'ailleurs, anamnèse, c'est un élément très important du canon romain. On en a dès les premières anaphores des premiers siècles. Voilà. L'autre prière importante dans le canon, c'est ce qu'on appelle l'épiclèse. L'épiclèse, du grec épiclésis, épiclèse, quoi. Du grec qui veut dire appel sûr. Il paraît que quand vous allez en Grèce et que vous appelez l'ascenseur, c'est épiclésis. Appel. Et l'idée derrière, c'est que c'est une prière particulière dans laquelle on invoque Dieu et la force de Dieu pour que descende sur les oblats, sur le pain et le vin, la grâce, la bénédiction qui va les transformer dans le corps et dans le sang du Christ. Généralement, dans l'épiclèse, on fait mention du Saint-Esprit, tout particulièrement, mais pas toujours. Et ça, on va voir, parce que l'épiclèse, dans le canon romain, elle est avant la consécration, et on va voir que c'est bien un appel de la grâce divine, de la bénédiction divine, sans mention du Saint-Esprit explicite. Bon, on va travailler ça un petit peu. Je vous en parle parce que ça, c'est un énorme débat en théologie. Moi, je continue à vous dire que ce sont les paroles à consécration qui transforment le pain et le vin en corps et en sang du Christ, uniquement. S'il n'y avait que ça, ça marcherait, en très gros. Mais pour les orientaux, pour certains groupes d'orientaux schismatiques, pas pour les orientaux rattachés à l'Église, mais pour les orientaux schismatiques, certains disent qu'il faut le pain et le vin se transforment en corps et en sang du Christ à l'épiclèse, et pas dans les paroles de la consécration. Tout ça pour accuser le canon romain de n'être pas valide. Bon. Aujourd'hui, il est certain déjà que nous, on a une épiclèse et des paroles de consécration, et je crois théologiquement, j'essaie de vous montrer, que c'est vraiment les paroles elles-mêmes qui effectuent la transsubstantiation. Ça, c'est une grande prière importante. Autour, dans le canon romain, vous avez aussi ce qu'on appelle les mementos, mementos des vivants, mais maintenant des défunts, ce sont des prières extrêmement anciennes aussi. C'est-à-dire, souvenez-vous, Seigneur, des vivants et des défunts pour lesquels on prie notamment. Et vous avez cette grande prière finale dans le canon de la doxologie, où on invoque toute la Trinité pour tout récapituler. Donc voilà, c'est des mots. Doxologie, ça veut dire c'est la gloire de Dieu. Le Gloria Patri et Filio, gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ça c'est une doxologie. Ça s'appelle une doxologie. C'est une parole à la gloire de la Trinité. Donc, une doxologie, il y en a une à la fin du canon. Les mementos, l'épiclèse, la nanette. Voilà. Bien, nous avions terminé sur l'offertoire et nous basculons avec le premier dialogue introductif dans une partie complètement différente. Et je vais essayer de vous faire sentir à quel point on passe de quelque chose d'une chose à une autre, que on sent dans la liturgie elle-même comment le sacré fait son apparition avec le dialogue introductif qui sépare l'offertoire du canon et avec surtout la préface. Donc Appel écrivait, lorsqu'on passe à l'action même du sacrifice, il est impossible, si on fait attention, de n'être pas saisi par la soudaine majesté de la prière. Le salut du peuple à l'assemblée, l'invitation à se tenir haut les cœurs, sursum corda, l'appel solennel, l'acclamation, il est vrai, il est digne et juste, sa reprise si ferme par le pontife qui développe alors la préface en une gradation montante, on va voir, c'est magnifique ce passage-là, en une gradation montante jusqu'au sanctus pour s'épanouir enfin dans l'incomparable Tejitour qui commence le canon en flot puissant, lourd de sens, chargé d'adoration, quels incomparables accents, et comme ils proclament, par leur frémissement même, qu'on vient d'entrer dans le mystère. Il faut saisir qu'à ce moment-là, on passe dans le mystère. À partir de ce moment-là, le prêtre ne se retournera plus vers les fidèles, ce qu'il faisait à chaque fois qu'il disait « Dominus obiscum ». Eh bien là, il ne le fera pas. Il se concentre sur ce qui va se passer à l'autel. Nous avons d'abord, après l'offertoire donc, un dialogue introductif qui introduit la préface. Ce dialogue est extrêmement ancien, il date du 3e siècle après Jésus-Christ. Saint Hippolyte, Saint Cyprien de Carthage, Saint Augustin récitaient avec leurs fidèles ce même dialogue. Je vous ai mis les traductions à côté. Donc, le Seigneur soit avec vous, et la foule répond, et avec votre esprit. Ô les cœurs, sursum corda, nous les tenons élevés vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, cela est digne et juste. Alors, mes traductions, c'est les traductions pour essayer de coller le plus au texte latin, parce que c'est le texte latin qui est le canon et qui nous intéresse quand même. Voilà. Ce dialogue, à quoi il sert ? Déjà, à réveiller un peu les fidèles, qui avaient pu s'endormir peut-être, pendant l'offertoire, et on leur dit, c'est le moment. Là, il faut être là. Attention. Les préparer au passage central, le sacrifice eucharistique, et les appeler à élever leur cœur au-dessus des réalités matérielles. Le mot sursum corda, l'expression sursum corda, c'est l'idée que là, on entre dans quelque chose qui est complètement divin, qui n'a plus rien d'humain, et que nous sommes appelés à quitter la condition terrestre pour célébrer les saints mystères, la merveille divine qui s'approche de nous. On quitte le monde, on passe dans l'intemporel, parce que vous savez, à la messe, il y a une intemporalité, la présence, sacrifice du Golgotha devant nous, et toute cette mise en scène, en quelque sorte, parce que c'est vraiment une mise en scène du début du canon, est là pour nous impacter et nous dire « attention, ça devient solennel ». Et du coup, on se lève. Et le thème de toute la prière eucharistique est donné par le prêtre « Gratias agamus domino Deo nostro, rendons grâce au Seigneur ». Eucharistie, c'est l'Eucharistie. On pense souvent à la messe comme étant à la transsubstantiation, sacrifice pour les péchés, sacrifice de louange. Je crois qu'on oublie un peu trop souvent l'idée même de l'action de grâce, qui a pourtant été retenue comme... c'est le mot qu'on a retenu pour décrire la messe quand même. Eucharistie, action de grâce. Je crois qu'on n'est pas assez conscient que quand on va à la messe, c'est pour célébrer une action de grâce. Vous, en tant que fidèle, moi, en tant que prêtre, quand on va à la messe, c'est pas uniquement pour demander des choses à Dieu, c'est d'abord pour lui rendre grâce, pour un devoir de justice envers Dieu. Pourquoi action de grâce ? D'abord, ça vient historiquement du fait que la scène, la première scène, a eu lieu pendant une action de grâce. La grande action de grâce juive de la fête de la Pâque précède, et le thème principal de cette fête de la Pâque, et c'est au cours de cette action de grâce que le Christ institue l'Eucharistie. Et cela est resté dans la Bible elle-même, puisqu'on nous dit, Jésus, la veille de sa passion, après avoir pris du pain, c'est l'offertoire en quelque sorte, rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant. Et cette phrase, rendit grâce, c'est ça qu'on essaye de développer au maximum lorsqu'on rentre dans le canon. Passons du coup à la préface. Alors le dialogue introductif, c'est censé répondre, hein, et censé évoquer des choses. Trop souvent, le prêtre il dit des choses, et puis les fidèles ils répondent à bivouac. Là, il faut, c'est magnifique quand même. Élevons nos cœurs, nous les tenons élevés vers le Seigneur. Habemus ad dominum. Rendons grâce à Dieu. Cela est juste et bon. Dignum et justum est. Il faut que ça sorte du cœur. Il faut déjà avoir compris un peu ce qu'on dit. Et puis après, il faut l'exprimer véritablement. Parce qu'après, le prêtre va se lancer dans une prière magnifique, qui est la préface, qui est une sorte de développement de cette idée principale de on va rendre grâce à Dieu. L'introduction des préfaces, il y a plusieurs préfaces dans le canon romain, il y en a une quinzaine à peu près, l'introduction sera toujours la même. Et c'est ce que je vous ai mis dans la fiche, Veridinium. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire de vous rendre grâce toujours et partout, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Parce que c'est juste. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. On en a parlé l'an dernier quand on a parlé de la vertu de religion. Les sentiments qu'on a envers Dieu, la reconnaissance, l'hommage que le chrétien doit avoir envers Dieu, c'est d'abord une histoire de justice. Il faut, au moment où on rend grâce, être pénétré de l'idée que nous avons une dette irréparable, absolu envers Dieu, que nous sommes les obligés du Seigneur, comme on a pu le dire l'année dernière. Tout l'esprit de la religion est là. Dieu m'a tout donné, je ne me suis rien donné moi-même, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu qui me l'a donné, je dois rendre grâce. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un acte spontané qui sort de ma pure liberté parce que j'ai envie. À la base, c'est une histoire de justice. Et c'est ce qui est marqué dans le texte lui-même. Il est digne et juste, et il est équitable. L'équité, c'est la justice. L'histoire d'essayer de rétablir l'équilibre face à tous les dons que Dieu m'a donnés, eh bien, je lui rends grâce. Je le remercie, je le loue. Je lui offre un hommage de moi-même en échange de cela. Voilà le thème. Qui commence la préface, l'idée que je suis un obligé du Seigneur, que j'ai une dette infinie envers lui. Et dans les préfaces, après ce passage qui commence toujours de la même manière, on va expliquer pourquoi. Et il faut aller lire les préfaces, c'est extraordinaire. La préface de la messe, c'est l'une des pages les plus belles qui aient pu été écrites sur Dieu, sur les dons de Dieu et sur le cœur, l'hommage des pères de l'Église et des premiers qui ont écrit ces textes-là, ce sentiment qui. Et ça part en puissance petit à petit tout au long de la préface pour aboutir au Sanctus. C'est magnifique, vraiment. Et on ne fait pas, je crois, assez attention à la beauté de la prière de la préface. Après avoir dit qu'il était juste et digne et équitable et salutaire, puisque c'est en rendant grâce que je fais mon salut. De rendre grâce à Dieu, chaque préface va essayer d'expliquer pourquoi. Et ça va changer selon la fête que l'on célèbre. Dans les plus anciens sacramentaires, il y avait autant de préfaces que de messes. Pour chaque messe, il y avait une préface particulière. Et à chaque messe, on essayait de trouver le motif qui pouvait nous pousser aujourd'hui à rendre grâce à Dieu. Il y en a moins maintenant. Je vous cite par exemple la préface de Noël. Après avoir dit, il est juste et digne de rendre grâce, pourquoi? Car par le mystère de l'incarnation du Verbe, un nouveau rayon de votre splendeur a brillé aux yeux de notre âme, afin que, connaissant Dieu sous une forme visible, nous soyons ravis par lui en l'amour des choses invisibles. C'est de la poésie. Poésie qui part du thème de Dieu qui se fait homme, qui se rend visible, qui brille aux yeux de notre âme et qui nous pousse par le visible à atteindre l'invisible de l'amour de Dieu. Tout le thème de l'incarnation est résumé en une phrase ici. La préface de la croix, celle qu'on va dire à partir du premier dimanche de la Passion. Parce que, donc on dit pourquoi est-ce qu'on rend grâce? Vous avez placé le salut du genre humain dans le bois de la croix pour que là même, à cet endroit même où la mort était née, surgisse la vie. Et pour que celui qui vainquit par le bois fut aussi vaincu par le bois par le Christ notre Seigneur. Là, il y a un thème extrêmement ancien, la confrontation entre les deux bois, le bois de l'arbre originel qui a fait tomber l'homme, c'est par le bois de l'arbre originel que Satan a vaincu Adam, et à ce bois de l'arbre originel, on oppose le bois de la croix, par lequel le Christ est vainqueur contre Satan. Donc là même, à l'endroit même où la mort était née, l'arbre originel, le salut arrive par l'arbre de la croix. C'est des thèmes extrêmement anciens, magnifiques, qui vont aussi avec l'idée que, vous savez, Adam est enterré sous le Golgotha. Je ne sais pas si vous saviez ça. Une antique tradition qui dit que le tombeau d'Adam, le Golgotha, c'est le lieu du crâne, lieu du calvaire, et qui dit qu'Adam, premier Adam, est enterré sous le Golgotha, et que le Christ, second Adam, meurt à l'endroit où est mort Adam, pour que son sang coule et vienne racheter Adam. Adam, le chef de l'humanité qui fait tomber l'humanité, Jésus, le nouvel Adam, chef de l'humanité rachetée, qui sauve l'humanité. Le parallèle entre les deux est saisissant. C'est pourquoi sur les croix, vous avez souvent, sur les croix anciennes, en dessous du crucifié, un crâne et deux ossements. Vous avez vu ça? Crâne et deux ossements, c'est Adam. Donc il y a le rapport entre ancien Adam et le nouvel Adam, l'arbre du péché originel et l'arbre de la croix. Tout ça, des choses qui ont été réfléchies quand même depuis les premiers siècles et qu'on nous on reçoit et auquel on fait peut-être plus attention, mais une fois qu'on l'a saisi, bah, c'est magnifique. Et c'est extrêmement riche en enseignement pour nous. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça bon. Voilà, donc chaque préface va développer un thème particulier d'action de grâce pour Dieu. Allez les lire, c'est magnifique. Et ensuite, la préface se conclut toujours par une sorte de montée en puissance. C'est pourquoi, ayant compris pourquoi il fallait rendre grâce, eh bien on va le faire, on va le faire et puis on va le faire associé avec tous les anges du ciel. Et là c'est extraordinaire parce qu'on est au ciel quoi. L'idée de la préface c'est de nous faire quitter la terre, de nous mettre en harmonie avec le cœur des anges, avec les cœurs des anges que l'on invoque, que l'on appelle, que l'on cite et dont on décrit ce qu'ils font en permanence. Ils adorent, ils louent Dieu. Et on dit, bah nous, humblement, on va essayer de se mettre avec eux et de louer le Seigneur en disant « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». C'est extraordinaire. Il y a dans la tradition 9 cœurs d'anges. Je vous les cite. Quand on s'en parle plus haut, terminons par les plus bas. Les séraphins et les chérubins. Les trônes. Dans les préfaces, c'est décrit par les cieux. Chéli, les trônes. Les dominations, les principautés, les puissances, les vertus, les archanges et les anges. Ces 9 cœurs d'anges, ils viennent de la Bible, de différents endroits dans la Bible, de l'Ancien Testament ou des Épîtres de Saint Paul, où ils décrivent ces familles d'anges qui sont au ciel. Et Denis l'Aéropagite a mis tout ça en ordre, et c'est dans la tradition, le culte des 9 cœurs d'anges. Eh bien, dans les préfaces, c'est eux qu'on invoque. On les invoque tous, sauf les principautés, figurez-vous, dont aucune préface ne parle dans le canon romain. Comme quoi, il y a des imperfections dans le canon romain. Vous voyez. Donc, on pourrait rajouter les principautés. Par exemple, dans la préface commune, celle qui est lue tous les jours, quand il n'y a pas une fête particulière ou que ce n'est pas le dimanche, qu'est-ce qu'on dit? Par lui, par le Christ, les anges louent votre majesté. Les dominations, c'est encore des anges, hein, vous adorent. Les puissances se prosternent en tremblant. L'idée de la majesté divine, de la crainte révérentielle, telle dont on parlait l'an dernier, si important pour la vertu de religion. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins la célèbrent, unis dans une même allégresse, à leur chant, nous vous prions, laissez se joindre aussi nos voix pour proclamer dans une humble louange, sanctus. Préface de Noël. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec la troupe entière de l'armée céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin, sine fine dicentes, sanctus. Et là, on est avec les anges. On n'est plus sur terre, on n'est plus là, on est dans ce qu'on fera au ciel. Là, on glorifie le Seigneur, on fait sa louange, et c'est merveilleux. Voilà. La louange, ce n'est pas un truc apparu, c'est extrêmement antique, c'est le cœur même de l'action de l'homme envers Dieu, et dans ces textes extraordinaires des premiers temps de l'Église, vous avez des pages qui sont magnifiques. Alors faites attention, il me dit même moi, hein, la préface, parfois on la récite hyper rapidement, le Sanctus, Sanctus, il faut y aller, on glorifie Dieu, quoi. Et donc il faut que ce soit, je sais pas, vibrant, de animé de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu. Tous les mots sont là pour évoquer en nous cette idée de puissance divine, cette idée de grandeur divine, d'amour aussi de Dieu, des biens qu'il nous a faits. Et nous, on n'a qu'une chose à faire, on se sent poussé à dire merci, et on le fait à travers ça. Je trouve ça magnifique. Voilà. Voilà ce que c'est l'Eucharistie. L'action de grâce, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas séparer la préface du canon. La préface, elle fait partie intégrante du canon, et elle exprime tout ça. Et là, on arrive avec le Sanctus, prière de glorification par excellence, rien à demander, rien à se faire pardonner, juste glorifier Dieu pour ce qu'il est. C'est ce qu'on fera au ciel, c'est ce que font les anges, c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi. Sanctus, 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 Saint, 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 le Seigneur, Dieu des armées, Deus Sabaoth, les saints et la terre sont emplis de votre gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. De la louange pure. Le début vient de Isaïe 6, 1, 3. Une prophétie d'Isaïe, une vision d'Isaïe. Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Déjà là, on est dedans. Voilà, le Seigneur apparaît et c'est impressionnant. Deux séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux pour se couvrir le visage. On se couvre le visage devant la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, du coup, dans le Sanctus, le prêtre le récite incliné, la tête baissée. Deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds et deux pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est Jéhovah des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler, et la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. » Et voilà, voilà. C'est ça aussi, la liturgie, d'arriver à nous impressionner à travers des attitudes, des chants, des mises en scène, pour nous faire sentir qu'on est en présence de Dieu. Monteverdi, dans les Vêpes de la Sainte Vierge, a écrit un passage extraordinaire. Duo Seraphim, clamabant, sanctus, sanctus, sanctus. Allez voir ça, dans les Vêpes de la Sainte Vierge, Duo Seraphim, il met en scène les deux séraphins, donc deux sopranes, des ténors même, et qui chantent en solo, et qui se répondent comme ça, sanctus, sanctus. C'est fascinant, fascinant. Mais il sentait, il savait ce que ça voulait dire. Voilà. Allez voir ça, et là, on est pris, c'est la gloire de Dieu, et l'hommage qu'on essaye de lui rendre par le beau. Hein, c'est là. On voit que l'Ancien Testament a beaucoup, beaucoup imprimé quand même, et il faut, c'est bien, notre façon d'honorer Dieu. Et supprimer ces idées fondamentales de l'Ancien Testament, ce serait très dommage. Rappelle à votre lecture le livre de Benoît XVI, qui, le dernier livre sorti, qui rappelle ça, combien il faut garder cet esprit de l'Ancien Testament quant au culte que l'on rend à Dieu. Voilà. Sanctus, 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 c'est ce qu'on appelle le Trisagion, Trisagion, Tris de trois, Agios, Saint, trois fois Saint. On le retrouvera, ce Trisagion, le Vendredi Saint, dans les Impropères, dans les Répons qu'on se fait entre Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Nobis. C'est le même thème. Ça, c'est des trucs orientaux extrêmement anciens et qui expriment ces mêmes idées. Trois pour la Trinité. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire. On sent qu'on entre dans les mystères divins, qu'on est mis en contact avec la divinité, avec la sainteté. La sainteté, c'est la séparation. La sainteté de Dieu, c'est ce que Dieu seul possède. Tous solus sanctus. Seul toi es saint. Et cette sainteté, bah, c'est qui est Dieu. On est mis en contact avec elle et elle se communique à nous à la messe. Donc on entre dans le Saint des Saints, vraiment. Par la grâce qui est participation à la sainteté de Dieu. Deus Sabaoth, le Dieu des armées, le mot n'a pas été traduit. C'est l'un des seuls mots hébreux qu'on a dans la liturgie. Les armées, il s'agit des armées célestes. Hein, ce n'est pas les combats de l'Ancien Testament, les guerres. Non. Le Dieu des armées, c'est les armées célestes qui combattent le mal. C'est toutes ces armées qu'on vient d'invoquer dans les neuf cœurs d'ange. Voilà. Hosanna, pareil, on n'a pas traduit le mot, il est resté en hébreu. Il signifie, alors c'est un cri un peu d'acclamation, mais derrière il y a l'idée de donne le salut arrive. On se réjouit parce que le salut est là. Hosanna, ça y est, c'est bon. Vous voyez, ça vient de Marc 11, 10, hein, l'arrivée de Jésus à Jérusalem, au rameau, Hosanna in excelsis. Voilà. Donc il l'accueille, il l'acclame. Mais en cherchant un peu plus loin, on pourrait dire, et il est dit deux fois le Hosanna dans le Sanctus. On peut le couper en deux, le Sanctus. D'ailleurs, il était coupé en deux auparavant. On s'arrêtait auparavant. Au premier Hosanna in excelsis, qui s'adressait à Dieu Trinité. Et après, on rentrait dans le silence, le canon commençait, et après la consécration, on reprenait avec Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, et là, cette reprise s'adresse non plus à Dieu Trinité, mais à Jésus, qui est là sur l'autel. Et on gardait un petit peu ce dernier verset, qui est la phrase précise que les Hébreux ont prononcé à l'arrivée de Jésus dans Jérusalem, c'est-à-dire on la garde au moment où Jésus arrive sur l'autel, se rend réellement présent sur l'autel. Là, béni soit celui qui vient, il est là, au nom du Seigneur, Hosanna in excelsis. Cette séparation a disparu petit à petit de la liturgie et donc on récite tout d'un coup maintenant. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée, l'attitude, c'est la glorification qui prime, qui sera suivie ensuite de l'adoration. Autrefois, au 8e siècle, quand on entonnait le Sanctus, tous les ministres du chœur s'inclinaient tous ensemble, s'inclinaient profondément, et restaient inclinés profondément pendant tout le canon, jusqu'au Nobis Quoque Peccatoribus, qui est dans la deuxième partie du canon, où tout le monde pouvait se relever pour demander à ce que nous aussi pécheurs, nous puissions participer à la gloire. Et on s'inclinait tous très profondément. C'est pourquoi, dans le canon romain, qui est récité à voix basse, le Nobis Quoque Peccatoribus est encore récité plus haut. C'est un rappel de ça. C'est pourquoi aussi, quand le prêtre récite le Sanctus, il s'incline profondément. C'est pourquoi aussi, il y a ce thème du sous-diacre qui se voile la face pendant le canon, qui fait écho à ces séraphins se voilant la face devant Dieu, disant Sanctus, Sanctus, Sanctus. Bon. Tout ça est tout à fait lié. On sonne des cloches à ce moment-là. C'est d'abord pour dire aux fidèles, attention, ça arrive, les choses importantes commencent, c'est un signal, mais c'est aussi pour participer à la joie et à l'acclamation des anges à travers le tintement des cloches. Autrefois, il y avait des cloches extérieures dans l'église et qu'on sonnait, ça s'appelait la cloche du Sanctus, qu'on sonnait à ce moment-là pour que les gens qui n'assistaient pas à la messe, parce qu'ils avaient peut-être déjà eu la messe, ou parce qu'ils étaient au travail et tout ça, bien viennent quand même, au moment du Sanctus, dans l'église pour assister à la consécration et repartir ensuite. C'était beau, hein? Les gens, ils disaient, oh, il y a une messe. Bon, je n'assiste pas à la messe, je l'ai peut-être eu et tout, mais là c'est le Sanctus, Jésus arrive, ils arrêtaient tout, ils rentraient dans l'église, et l'important était de voir Jésus à l'élévation. On va expliquer pourquoi la prochaine fois. Mais là, l'idée de voir le Christ à l'élévation était quelque chose d'extrêmement important pour les gens autrefois. Donc on sonnait la cloche et les gens se précipitaient dans l'église pour voir l'hostie. Voilà. Et on allume des cierges et ces refaire arrive parce que Jésus arrive. Et voilà que le canon, proprement dit, commence. C'est la règle, je vous ai dit. On va s'intéresser au canon romain, donc le canon de la forme extraordinaire, dont le dernier changement date de Jean 23, qui a inséré dans le canon romain la mention de Saint Joseph dans la prière du Communicantes. D'après ce que j'ai lu, mais ça a vérifié, j'ai un doute, mais il semblerait que dans ce canon romain, le dernier changement dans le texte du canon romain, daterait de Saint Grégoire au 7e siècle, qui ajoute à la prière Ancigitur les paroles Dies que nostros in tua pace disponas, dispose nos jours dans ta paix. A priori, mais il faut que je vérifie quand même, a priori, entre le 7e, 8e siècle et le 20e siècle, pas un changement n'aurait été fait dans le canon. J'ai un petit doute pour un truc du 9e siècle. Mais bon, même si c'était le 9e siècle, il y a quand même cette idée de c'est tellement sacré qu'on n'ose pas y toucher. Il y a eu vraiment cette idée très pénétrante au Concile de Trente notamment, de ça nous vient des plus lointaines origines de l'histoire de l'Église. Ça a été composé par les premières pères de l'Église, par les apôtres, par tout ça. On le reçoit et puis on n'y touche pas. Il y a cette idée quand même vraiment dans le canon. Ça, je passe, ça, je passe, ça, je passe. Oui, ça, je reviendrai dessus. Pour rester dans ce thème quand même de la sacralité du canon, je crois qu'on peut vraiment comparer l'entrée dans le canon à l'entrée du prêtre dans le Saint des Saints de l'Ancien Testament, la chose la plus sacrée qui soit. Autrefois, on disait, on célèbre les saints mystères. Et c'est pourquoi, dans les liturgies traditionnelles notamment, le silence était de mise pour le canon. Il ne l'est plus dans le nouveau rite. Benoît XVI a écrit des passages très très intéressants dans l'esprit de la liturgie où il aimerait bien qu'on revienne au silence dans le canon pour manifester ses idées de justement la sacralité. Alors, historiquement, pas vous tromper, dans les premiers temps de l'Église, pendant les persécutions, le canon était sans doute en silence à cause de l'arcane du secret, bon, dont on avait parlé la dernière fois quand même. Au moment de l'appel de l'Église, le canon va être proclamé pendant un siècle ou deux, donc proclamé à voix haute. Puis, à partir du 5e siècle, le canon va être récité à mi-voix pour être entendu uniquement des gens qui entourent le prêtre, qui servent la messe, et il passe à voix basse au 9e siècle. Ce côté de mi-voix ou de voix basse était pratiqué pour sauvegarder l'inviolabilité de ce sacrement, pour ne pas laisser ces saintes paroles, qui n'étaient pas connues des fidèles, aux mains de ceux qui pourraient les profaner et les utiliser pour de manière détournée. Et puis c'est aussi pour que les fidèles ne les prononcent pas. Hein? Cette idée-là, quand même, qui est que de même que les fidèles ne peuvent pas toucher les vases sacrés, une séparation, ils n'ont pas le droit d'accéder aux vases sacrés pour bien manifester qu'ils sont sacrés, de même, les fidèles ne peuvent pas toucher au canon pour leur rappeler que le canon, c'est réservé au prêtre ordonné, à celui qui a le pouvoir par le Christ de transformer le pain et le vin en corps et en sang. Et donc les fidèles n'avaient pas le droit de mélanger leur voix à celle du prêtre pendant le canon. C'était vraiment très très important. Et c'est pourquoi, pour éviter ça, petit à petit, le prêtre s'est réservé le canon à voix à mi-voix, puis à voix basse. De cette manière, le peuple s'arrête devant le Saint des Saints et laisse le prêtre médiateur, ce qu'ils ne sont pas, accomplir l'action sacrée. Donc oui, volonté d'inspirer le sacré. Le mystère, le recueillement. Cette partie de la messe me dépasse. Et ces thèmes de la sacralité et du silence pendant le canon sont quand même très anciens, puisque saint Cyrille ou saint Jean Chrysostome les évoquent. Ce n'est pas les fidèles, ce n'est pas eux le canon. Voilà. Le prêtre prie en leur nom, mais eux ne sont pas médiateurs. D'où la construction, dès le 5e siècle, des iconostases dans la liturgie orientale, cette grande construction en bois, souvent, avec des magnifiques icônes qui séparent le cœur de la nef, qui empêchent les fidèles de voir en détail ce qui s'y passe, et en Occident, des jubés, ou des grands voiles qui descendaient pour cacher ça. Je vous ai parlé du voilage des croix ou pas? Je vais parler de ça. Au temps de la Passion, les deux dernières semaines de carême, on va voiler les croix de l'Église. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, parce que, je viens de découvrir ça, alors je suis content, au Moyen-Âge, pendant tout le carême, pour manifester justement cette indignité qu'on avait à regarder le mystère sacré, à cause de nos péchés et tout ça, on faisait descendre un énorme voile violet qui séparait le cœur de la nef. On ne voyait rien, rien du tout, pendant tout le carême. Et ensuite, à Pâques, bam, le voile tombait, et là, c'était extraordinaire. Voilà. Enfin, parce qu'on est ressuscité, parce qu'on est sauvé, on peut assister au voile. Voilà. Et du coup, bah, ça a un peu évolué, petit à petit, et c'est devenu le voile des croix et des statues. Voilà. Mais à la base, c'était cette idée de la sacralité du canon. Voilà. C'est une catastrophe, on n'aura jamais le temps de tout faire. Le canon romain est en trois grandes parties. Il y a six prières de préparation, c'est celle que je vous ai mise sur l'affiche. Après, il y a le récit de l'institution. Et après, il y a sept prières après la consécration. Les plus anciennes, le canon romain, en gros, date du 4e siècle. D'accord ? Pour faire des parallèles avec ce que vous pouvez connaître, vous, aujourd'hui, pour ceux qui vont à la messe en forme ordinaire, le canon romain est repris presque intégralement, enfin, il est repris intégralement dans la prière eucharistique numéro 1. Il y a juste quelques rajouts, notamment l'acclamation du peuple après la consécration, nous célébrons ta gloire, qui n'est pas dans le canon romain originel. Mais donc, la prière eucharistique numéro 1, c'est en gros le canon numéro 1. Le canon romain, pardon. La prière eucharistique numéro 2 est une reprise de l'anaphore de saint Hippolyte de Rome du 3e siècle, avec quelques rajouts. Mais en gros, la structure, c'est une anaphore ancienne de cette, qu'on attribue à saint Hippolyte de Rome au 3e siècle. La prière eucharistique numéro 3 est une composition de 1967, mais avec la reprise d'éléments anciens de rites hispaniques ou gallicans. La prière eucharistique numéro 4 est une composition récente également, qui s'inspire des rites orientaux, mais qui, là, pour le coup, a été complètement réécrite avec une description de l'histoire du salut. Et aussi, dans le canon, dans la messe en français, trois prières eucharistiques pour les assemblées d'enfants, deux pour les messes de réconciliation, une prière eucharistique pour les circonstances particulières, avec quatre variantes. Dans la forme extraordinaire, il n'y a qu'un seul canon, et c'est le canon romain. Donc, comme c'est ce qu'on a en commun avec la forme ordinaire, c'est celui-là que je vais étudier, au moins, puis là, vous serez, pour ceux qui ne sont pas familiers de la messe traditionnelle, vous serez, je pense, vraiment pas perdus, à moins que vous n'écoutiez vraiment rien à la messe quand vous y allez. Bon. Le canon commence par Te igitur. Je dirais même, le canon commence par un T, la lettre T. Donc, pour vous montrer à quel point tout ça a été creusé, le canon romain, la première lettre du canon romain, c'est un T. Ce T, dès les premiers manuscrits, va être enluminé de plus en plus, et le T évoque la forme de la croix. Et c'est pourquoi, dans les missels, dans tous les missels en forme extraordinaire, il est obligatoire d'avoir une croix au début du canon. Quand vous ouvrez le missel à la page du canon, vous avez le début du texte, et en face, vous avez la croix du Christ. Cette croix du Christ vient de l'enluminure du Te igitur, et qui nous rappelle qu'on entre dans le canon. Et ça a beaucoup frappé les anciens. Innocent III disait, c'est par un mystérieux secret de la volonté divine que l'Église a été inspirée de commencer son canon par la lettre T, dont la forme représente une croix qui nous met en face de la croix. José, c'est beau. Voilà. Cette intervention spirituelle, il y a un côté providentiel, hasardeux, providentiel, mais c'est des intentions spirituelles, mais qui nous parlent, qui évoquent de magnifiques choses. Première prière du canon, le Te Igitur. Donc vous avez tout sur votre feuille. Hein. Te Igitur, c'est ce qu'on appelle la recommandation des oblats. Le prêtre commence le canon par un geste magnifique. Il élève les mains vers le ciel, il lève les yeux vers le ciel, se tourne vers Dieu et il fait descendre tout ça sur l'autel. Là, il y a un mouvement, on a l'impression qu'on attrape le ciel et qu'on le met sur la terre. C'est superbe. Te Igitur, clementissime pater. C'est pourquoi, Père très clément, nous vous prions humblement et nous vous supplions par Jésus-Christ. Donc, nous vous prions humblement, et là, il se prosterne dans l'humilité, la reconnaissance de ses fautes, et il embrasse l'autel par Jésus-Christ notre Seigneur, puisque l'autel représente Jésus-Christ. Tout est codifié au mot près et chaque geste à une signification qui s'unit avec les mots que le prêtre prononce. Vous remarquerez que dans tout le canon, des remarques générales, tout est au pluriel. Nous vous offrons, hein, puisque le prêtre parle au nom de l'Église, il parle aussi au nom des peuples, du peuple a participé à l'offrande de la messe. Il embrasse la croix, il embrasse l'autel, il embrasse le Christ, il prend le Christ, et après il bénit les offrandes. Pour montrer que ce n'est pas lui, par sa petite force, qui va bénir les offrandes, mais que c'est le Christ qui agit sur les offrandes. Il les bénit. Faites attention, quand on dit bénir les offrandes, ça veut dire très explicitement les consacrer. Donc l'idée, c'est qu'on va les consacrer. Ça sera la consécration, rassurez-vous. Mais déjà, on anticipe. On avait déjà vu ça dans l'offertoire, ce qu'on appelle la prolepse. C'est-à-dire que ce pain et ce vin, déjà, on le désigne comme étant l'hostie immaculée ou le calice du salut, mots qui serviront à désigner le corps et le sang du Christ, pour dire à quoi ce pain et ce vin, leur seule destination, c'est de devenir le corps et le sang du Christ. Donc on les appelle par le même mot, par anticipation, ça s'appelle une prolepse. Et là, il y a une très belle prolepse dans le Te Igitur, sacrificia libata, ces offrandes saintes et immaculées, le corps et le sang du Christ. Ce sera pour tout à l'heure, mais déjà on les appelle comme cela. Et il fait trois croix. Vous verrez dans le canon, le prêtre fait soit une croix tout court, pour mentionner l'unité de l'essence divine, soit trois croix, la Trinité, soit cinq croix, les cinq plaies du Christ. C'est toujours un, trois ou cinq. D'accord? Ça, c'est la prière Te Igitur. On recommande les oblats à Dieu. En fait, on récapitule un peu l'offertoire et on présente tout ça à Dieu. In primis, prière suivante. À partir de là, la prière in primis, nous vous les offrons avant tout, et la prière memento et communicantes font partie d'un même ensemble de prières qu'on appelle toujours les diptyques. Alors, est-ce que j'ai le temps? Oui, on va dire j'ai le temps. Un diptyque, c'est pas un triptyque, c'est un triptyque mais à deux. Facile. Donc c'est en gros deux pièces de bois reliées par une charnière qu'on plie. Vous avez un triptyque avec des icônes et tout ça. Un diptyque, c'est ça. Ça vient de Rome, des consuls, on les offrait pour rendre grâce. Et ça va arriver la sphère du religieux. Et ça va servir soit à mettre des belles images, des icônes, un diptyque, c'est deux icônes qu'on replie l'une sur l'autre, soit, et là ça va servir pour la messe, sur les diptyques, on inscrivait plein de noms, les noms de ceux pour qui on voulait prier, les noms des personnes importantes, du pape, des évêques, les noms des saints, des martyrs, les noms de tous ceux qu'on voulait invoquer d'une manière ou d'une autre à la messe. Vivants ou morts, saints ou purgatoires, personnes pour lesquelles on va prier, on mettait tout ça. Et à un moment, le diacre se levait et lisait la liste de tous les noms qu'on cherchait à évoquer pendant la messe. Et donc ces noms, c'était quoi? C'était soit les personnes avec lesquelles on est unis, l'évêque, le pape, et ça va donner la prière in primis, soit les gens pour lesquels on offrait la messe, les intentions de messe, des fidèles par exemple pour qui on offrait, et ça va donner la prière memento. Soit les noms de tous les saints ou des martyrs avec lesquels on veut s'unir dans cette célébration. Ça va donner la prière communicantes. Et on va retrouver, après le canon, après la consécration, le memento des défunts, même idée pour prier non plus pour les vivants, mais pour les défunts, et la prière Nobis Quoque Peccatoribus, qu'on verra aussi, qui évoque encore une dernière fois des martyrs et des saints. Tout ça faisait partie d'un même ensemble, d'une même idée, qu'à la messe, on fait venir tout le monde. Quoi. C'est vraiment ça. On invoque, on convoque les saints, on convoque les morts, on convoque les vivants, on convoque les autorités pour la grande communion des saints qu'est la messe. C'est le thème principal de ces différentes prières. On va arrêter de lire cette liste parce que les fidèles étaient tout fiers qu'on lise leur nom à la messe. Et il y avait un gros problème de vanité et d'orgueil. C'est ça hein, qui fait « Oh là là, on n'a pas dit mon nom, ah, on a dit ton nom » et tout ça. Et du coup, le prêtre va arrêter de lire des listes et va les dire en silence, en secret, dans son canon. Voilà. Dans le hymne primis, on offre la messe à Dieu pour l'Église catholique, l'ensemble de tous les catholiques romains, non, de tous les catholiques, pardon, du monde. Catholique, ça veut dire universel. Dans cette belle prière de hymne primis, nous les offrons avant tout pour votre Sainte Église catholique, il y a les quatre notes que vous connaissez tous par cœur de l'Église. Une, sainte, catholique, apostolique. Les quatre notes par lesquelles on reconnaît l'Église catholique. C'est extrêmement ancien aussi comme doctrine. Pour Ecclesia, toi, Sancta, Sainte, Catholica, Una cum famulo, et Apostolice Fidei Culturibus. Ça a été réfléchi tout ça. Hein. Il y a les quatre notes de l'Église dans lesquelles on s'unit avec l'Église tout entière. On prie, et l'un des thèmes principaux de la prière, de cette prière, c'est l'unité de l'Église. C'est de prier pour l'unité de l'Église, de prier pour l'unité dans la foi. Je vous rappelle, vous avez déjà dit, hein, que l'Eucharistie est par excellence le sacrement de l'unité de l'Église, parce que tous communient au même corps, tous sont unis à la même tête, à Jésus. L'unité de l'Église, la communion fraternelle, tous les membres dans l'Église, c'est là qu'elle se fait. Et c'est pour ça qu'elle est mentionnée ici, par l'Eucharistie, se fait l'unité de l'Église, se construit l'unité de l'Église. On prie spécialement pour le pape, una cum famulo tuo papa nostro, Francisco. C'est le fameux una cum que refusent de dire les Sede Vacantis, par exemple. Ceux qui ne reconnaissent pas le pape sautent ce passage-là et sont en dehors de l'unité de l'Église. Una cum avec le pape, pourquoi? Parce que c'est le pape qui désigne où est l'Église. Ubi papa, ibi Ecclesia, là où est le pape, là est l'Église. Pour être dans l'Église, il faut être uni avec le pape. Alors, qu'est-ce qu'il dit le pape, lui, quand il dit la messe? Eh bien, il dit « uni avec moi ». Il dit « una cum me indigno famulo tuo, quem gregi tuo preesse voluisti ».« Uni avec moi, ton serviteur ». Parce que quand lui, il parle au nom de l'Église. Après, il n'offre pas la messe en son nom propre. Hein. Donc, il dit, nous vous offrons, c'est toute l'Église qui offre, unie avec moi, ton serviteur indigne auquel tu as voulu confier ton troupeau. C'est beau. Voilà ce que dit le pape, que disait, je pense que c'est encore dans le canon à vérifier, mais